Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui dans le sillage de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, consacrée à un livre qui vient de paraître aux éditions Arthège, Trésor spirituel des chrétiens d'Orient et d'Occident. Tel est le titre de cet ouvrage qu'a écrit le père Martin de la Rancière, chanoine régulier de Saint-Victor, prêtre catholique qui a œuvré pour l'unité des chrétiens en Roumanie et en France. Le père Martin est aujourd'hui avec nous pour parler de son livre et du choix des textes qu'il contient. Pour commencer, mon père, quelques mots sur la genèse des trésors spirituels des chrétiens d'Orient et d'Occident.
Bonjour à tous les auditeurs de France Culture. Ce livre s'inscrit dans le sillage d'un premier que j'ai publié il y a bientôt 10 ans, aux éditions du Jubilé, Trésor de la prière des chrétiens d'Orient et d'Occident. L'idée est d'offrir au grand public catholique, surtout, un regard sur des formes de prière ou, dans le cas de l'ouvrage que je publie ce mois-ci, des textes spirituels d'autres traditions chrétiennes. Donc, le lecteur catholique de mon livre découvrira des auteurs orthodoxes auxquels il n'a pas accès habituellement, on en parlera tout à l'heure, des gens comme Saint Nicolas Cabasilas ou Saint Philarète de Moscou, Saint Silouane, les Silouanes latonites. Donc finalement, c'est élargir le regard. Souvent, j'ai le sentiment que parfois nous restons un petit peu cloisonnés dans notre univers spirituel, qui en soi n'est pas mauvais, mais que nous manquons d'une visée plus large. Vous dites bien que cette émission s'inscrit dans le sillage de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je crois qu'on est tout à fait dans cette logique-là, de s'ouvrir à tout ce que nos frères et sœurs chrétiens ont de meilleur, de beau à nous apporter.
Merci. Alors, peut-être quelques mots sur votre propre parcours, parce que vous êtes maintenant en France, mais vous êtes passé aussi par... Vous avez habité, vous êtes resté dans un pays de tradition orthodoxe, la Roumanie. Et je voudrais quelques mots là-dessus, parce que ce passage par la Roumanie a dû influencer également votre, non seulement le choix des textes, mais également votre regard sur le monde chrétien.
Oui, tout à fait. J'ai été ordonné prêtre en 1996, donc ça fait maintenant plus de 20 ans. Et à ce moment-là, mes supérieurs m'ont envoyé en Roumanie. On était pas si loin que ça de la chute du communisme, hein, ça faisait moins de 10 ans. Et l'église gréco-catholique, qu'on appelle souvent l'église uniate, l'église catholique de rite byzantin, venait tout juste de reprendre ses activités de manière officielle et souffrait d'un grave manque de formateurs dans les grands séminaires. Alors vous voyez, moi-même comme tout jeune prêtre, eh bien j'ai été mis à contribution pour former de futurs prêtres gréco-catholiques. Et j'ai été immergé d'une part dans ce pays qui m'était totalement inconnu jusque-là, et puis dans ce rite qui m'était inconnu, le rite byzantin. Hein. Il s'agit exactement du même rite qu'en usage dans l'église orthodoxe, sauf qu'on parle d'une église en communion avec l'église de Rome. Mais pour moi, ça a été une expérience, je peux dire une expérience fondatrice. Et un aspect fondateur de cette expérience, bon, d'une part, c'est découvrir qu'on peut exprimer les réalités de la foi, les réalités liturgiques, spirituelles. Je dis souvent que c'est l'analogue, le rite, c'est l'analogue d'une langue. C'est une autre langue, c'est une autre manière de s'exprimer. Et donc, moi qui ai beaucoup de goût pour les langues, j'ai eu finalement beaucoup de goût pour cette expression liturgique dans un autre rite. D'autre part, j'ai fait cette expérience que les Français font rarement, les catholiques français. C'est-à-dire, en tant que chrétien, si vous voulez, en tant que catholique, se trouver très minoritaire dans un pays chrétien. On a beau dire en France, parmi les chrétiens, même si on peut trouver qu'ils sont pas aussi nombreux qu'on voudrait, enfin les catholiques numériquement dominent. C'est comme ça, c'est lié à notre histoire. Tandis que là-bas, c'est l'inverse. Là-bas, l'élément très majoritaire en termes de chrétienté, c'est l'élément orthodoxe en Roumanie. Donc moi, je faisais cette expérience de vivre au milieu d'un peuple qui, on peut le dire sans crainte de se tromper, est plus imprégné du christianisme aujourd'hui que la France ne l'est. Et en même temps, dans ce peuple-là, je comprenais que la grande majorité des chrétiens, et beaucoup de chrétiens fervents, étaient d'autres traditions chrétiennes que la mienne. Alors, il y a l'orthodoxe, mais il y a aussi un nombre important de protestants, un nombre non négligeable, en tout cas. Donc ça, je considère que ça a été une expérience fondatrice et ça a éveillé en moi le désir de faire quelque chose pour surmonter ces barrières, finalement, qui nous séparent entre orthodoxes et catholiques, notamment, mais pas uniquement.
Alors maintenant, quelques mots sur le livre et la structure du livre, qui est basé sur le temps liturgique de l'Église catholique romaine, mais avec des textes, comme vous avez dit, qui ne viennent pas seulement de la tradition romaine.
Oui.
Alors, comment vous avez conçu ce livre? En quoi est-il destiné? Quel est le...
Alors, je dirais que l'idée de ce livre, c'est d'offrir au lecteur, chaque jour, un temps de, on pourrait dire, de respiration spirituelle, vous voyez, de l'ordre de quelques minutes, le temps de lire, de s'imprégner d'une belle page d'un auteur spirituel. Alors, ça peut être un père de l'Église, ça peut être un saint, si c'est une Église qui accepte les saints, ou tout simplement un auteur spirituel, dans le cas de protestants. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment... J'ai choisi uniquement des textes que j'appellerais à forte densité spirituelle, si je peux employer cette expression. C'est-à-dire, voyez, c'est pas de la petite méditation un peu de bas de gamme, si je puis dire. C'est vraiment des textes nourrissants spirituellement. Voilà. Donc, ça fait la valeur d'une page, parfois une page et demie, notamment pour le dimanche. Les dimanches et les grandes fêtes, j'ai choisi de prendre des textes un peu plus longs. Hein. Et puis, en écho au texte, à chaque fois, alors ça, c'est plus mon œuvre personnelle, j'ai rédigé une brève prière qui fait écho au texte. Donc, ça permet vraiment d'avoir un temps de lecture spirituelle, hein, ce que les auteurs spirituels recommandent beaucoup, d'avoir chaque jour, de même qu'on nourrit son corps, hein, on reste rarement plus de quelques heures sans se nourrir physiquement, on a besoin aussi d'une nourriture spirituelle. Donc c'est ça l'idée.
Et puis aussi, quelques mots sur, s'il vous plaît, sur le choix des textes qui ne sont pas de la tradition catholique romaine. Je vois que vous avez des auteurs qui étonnent parfois. Par exemple, j'ai vu du Grégoire Palamas et on n'a pas l'habitude de voir Grégoire Palamas cité dans un livre fait par un catholique qui s'adresse à des catholiques. Et puis aussi des auteurs orthodoxes dont vous avez cité quelques-uns tout à l'heure, modernes, hein, du 19e ou du 20e siècle, très proches de nous. Alors là, comment vous avez fait l'approche? Comment vous les avez connus déjà vous-même?
Oui, alors justement, je dirais que moi-même, par ma propre histoire, par l'intérêt que j'éprouve pour justement cette découverte des autres traditions chrétiennes, j'ai fini par, au fil des années, découvrir pas mal d'auteurs, hein, aussi bien dans le monde protestant que dans le monde orthodoxe ou syriaque. À force, vous voyez, il y a des noms quand même qui se détachent, donc dès qu'on commence à se plonger un peu dans des recueils de textes, on tombe. Donc quelqu'un comme Grégoire Palamas, je dirais, il est absolument incontournable pour quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité orthodoxe, de même un Nicolas Cabasillas, par exemple. Bon, voyez, donc c'est vraiment un petit peu au fil de mes recherches, et je dirais presque de fil en aiguille, que j'ai découvert tel ou tel auteur. Et puis c'est vrai que j'ai un petit peu fréquenté des monastères orthodoxes. Donc vous voyez, il y a quelques années, j'ai découvert un auteur serbe que je ne connaissais pas du tout, Saint-Nicolas Velimirovitch, par exemple, qui est une très très belle figure d'auteur spirituel du XXe siècle. Donc c'est un peu, je dirais pas, ça s'est pas fait de manière systématique, ça c'est un petit peu lié à mon histoire personnelle, mais je pense quand même que le Seigneur m'a guidé aussi et que, au fond, j'espère ne pas avoir laissé passer de grands, grands auteurs.
Alors, avant de rentrer dans les textes dont vous allez commenter quelques-uns, on va faire un voyage en Roumanie puisque c'est le pays orthodoxe dans lequel vous avez vous-même vécu. Et nous sommes au monastère Saint-Georges qui est près de la frontière moldave. Les moniales chantent un extrait de la liturgie de Noël.
Thank you.
après cet extrait de la liturgie orthodoxe chantée par les moniales du monastère Saint-Georges en Roumanie. Nous sommes en Roumanie du Nord, près de la frontière moldave. Retour à notre entretien avec le père Martin de la Roncière qui a fait un livre « Trésors spirituels des chrétiens d'Orient et d'Occident » paru chez Arthège en 2019. Mon père, on va maintenant regarder quelques textes inspirés de la tradition, je dirais, orthodoxe. Et on part d'un personnage du XXe siècle qui a beaucoup œuvré pour l'unité des chrétiens et prié pour l'unité des chrétiens.
Vous voulez parler, je pense, du patriarche Athénagoras. C'est une grande figure de l'orthodoxie qui a été aussi, je dirais, mis en lumière dans le monde catholique par ses contacts avec le pape Paul VI. Donc là, nous parlons des années 60. Donc ça, c'est vrai que ça fait maintenant plus de 50 ans, mais les anciens ont encore certainement présent à l'esprit cette image de l'accolade entre l'immense patriarche Athénagoras, donc le patriarche de Constantinople, avec sa longue barbe, étreignant le pape Paul VI, beaucoup plus fluet. Et c'était sur le Mont des Oliviers, à Jérusalem, le 5 janvier 1964. Et alors ça, c'est un événement qui a eu un retentissement considérable, puisqu'évidemment, ça représentait une réconciliation entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe 9 siècles après ce malheureux schisme. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant dont je cite des extraits dans mon livre. C'est un livre d'entretien du patriarche orthodoxe avec le célèbre théologien orthodoxe français Olivier Clément. Donc ça s'intitule Dialogue avec le patriarche Athénagoras. Ça est paru en 1969, vous voyez, une époque assez tourmentée dans l'histoire de France, puisqu'on était au lendemain de l'explosion de mai 68. Et le patriarche a une espèce de vision, comment l'appeler, on ne sait pas si c'est poétique ou prophétique, un peu les deux, d'une réunion des églises. Lui, il la voit pour demain. Et je voudrais vous lire comment il exprime cela. Il part du fameux verset de la fameuse prière de Jésus à son Père, au soir de sa passion, « Qu'il soit un comme nous sommes un ». Et il commente « Comment cette prière pourrait-elle embraser l'Église du Christ, consumer ses cloisonnements ? On a voulu l'unité par l'uniformité, alors que le pluralisme, même théologique, était immense dans l'Église ancienne. La rupture de la communion a rendu les différences insurmontables. Elles ont été systématisées, parfois même, hélas, dogmatisées. » Vous pourrez penser à la fameuse querelle du filioque, pour ceux qui connaissent, sur la procession du Saint-Esprit. « Maintenant, dit le patriarche Athénagoras, nous allons vers la troisième période de l'Église, celle de l'amour, du partage dans le respect mutuel, de la réconciliation, jusqu'à ce que le Seigneur veuille nous réunir dans le très saint calice de son corps et de son sang très pur, quand, par un amour et un grand travail, nous aurons permis que les différences n'interdisent plus la communion, mais l'appellent, ayant cessé d'être exclusives, pour se reconnaître approche complémentaire de la vérité, comme c'était le cas au premier siècle. » Vous voyez une vision très moderne de cette émission. « L'heure sonne où, dans nos héritages complexes, l'amour va enterrer tout ce qui est mort et libérer tout ce qui est vivant, tout ce qui converge. Alors, la séparation elle-même apparaîtra comme providentielle par toutes les explorations et toutes les efflorescences qu'elle aura permises, et donc par la conscience plus affinée, plus respectueuse du mystère qu'elle nous aura fait acquérir. Oui, dit le patriarche, l'union est maintenant une possibilité historique. Elle peut se faire d'une manière inattendue, comme toutes les grandes choses, comme le retour du Christ qui a dit qu'il reviendrait comme un voleur. Elle sera un miracle, mais un miracle dans l'histoire. Et voici la très belle conclusion où il nous dit qu'il prie la nuit pour cela. « Chaque nuit, parfois à minuit, Parfois, à 4 heures du matin, je prie pour l'union. Quand se fera-t-elle? Interrogé sur la fin du monde, le Christ confesse son ignorance d'homme. Seul le Père, dit-il, connaît les temps et les moments. Il en est de même pour l'union. L'avenir est en Dieu. Les volontés de Dieu reposent dans l'éternité. Elles entrent dans le temps quand le temps est mûr. Notre tâche est de faire mûrir le temps.
Écoutez, je crois qu'il faut rester avec ces belles paroles de Patriarche Athanagoras et l'espoir, évidemment, l'espérance qu'il crée parce qu'il dit et que l'Église va finir par retrouver l'unité demandée par le Christ. Alors, comme le temps nous presse, nous allons voyager et nous allons peut-être aller au Mont Athos pour un saint d'origine russe, Saint Silouane, canonisé, reconnu comme saint par le patriarche de Constantinople, justement, Saint Silouane Latonite, qui a laissé un souvenir absolument extraordinaire à tous ses disciples, dont vous avez également des textes très, très parlants dans votre livre.
Oui, alors Silouane, moi j'ai entendu un prêtre orthodoxe que j'aime beaucoup en Dordogne, qui disait qui faisait le parallèle, qui le rapprochait de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous voyez, la sainte catholique, la sainte, je dirais, qui découvre, qui met en lumière l'amour miséricordieux du bon Dieu, comme elle dit. Hein. Et c'est vrai que dans le texte que nous allons écouter, Silouane met en lumière la tendresse de Dieu pour les hommes. Donc je vous lis ce passage que j'ai assigné, moi, pour la fête du Sacré-Cœur. Vous savez que dans l'Église catholique, on a une fête au lendemain de la Pentecôte où on met en lumière la tendresse du cœur de Jésus. Voici ce qu'il écrit. Si les hommes savaient ce qu'est l'amour du Seigneur, c'est en foule qu'ils accourraient auprès du Christ, et il les réchaufferait tous de sa grâce, lui dont la miséricorde est inexprimable. Le Seigneur aime le pécheur repentant et le serre avec tendresse contre sa poitrine. Où étais-tu, mon enfant? Je t'attends depuis longtemps. Par la voix de l'Évangile, le Seigneur appelle à lui tous les hommes, et sa voix retentit dans le monde entier. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos. Venez et buvez l'eau vive. Venez et apprenez que je vous aime. Mon amour pour vous m'a fait venir sur la terre, et j'ai tout enduré pour votre salut. Je veux que vous connaissiez mon amour et disiez, comme les apôtres sur le mont Tabor, « Seigneur, il nous est bon d'être avec toi. » Le Seigneur nous appelle sans cesse à lui. « Venez à moi et je vous donnerai le repos. » Il nous nourrit de son corps et de son sang très pur. Avec bonté, il nous éduque par sa parole et par le Saint-Esprit. Il nous a révélé les mystères. Il vit en nous et dans les sacrements de l'Église, et il nous conduit là où nous verrons sa gloire. Mais chacun la verra à la mesure de son amour. Le Seigneur nous a donné, à nous pécheurs, le Saint-Esprit, sans nous demander aucun paiement. Mais à chacun de nous, comme à l'apôtre Pierre, il demande « M'aimes-tu ?» Ainsi, le Seigneur n'attend de nous que l'amour, et il se réjouit lorsque nous venons à lui. Staré de Silouane conclut « Mon âme a un grand désir. Que la miséricorde du Seigneur soit avec tous les hommes, afin qu'ils sachent avec quelle tendresse le Seigneur nous aime comme ses enfants très chers. »
Écoutez, c'est... Comme le temps ne permet pas d'aller plus loin dans la lecture de ces beaux textes, ce sera avec ce texte de Saint Silouane Latonite qu'on va conclure les lectures. Il faut rappeler que dans ce livre que vous proposez, il y a d'autres textes très importants, par exemple de Nikola Velimirovic, un saint serbe du XXe siècle, qui a laissé lui aussi une tradition derrière lui et qui inspire très fortement l'Église en Serbie et partout dans le monde. Je rappelle également le titre de cet ouvrage et puis votre démarche, mon père, très écuménique. Donc, Martin de la Rancière, Trésor spirituel des chrétiens d'Orient et d'Occident pour prier chaque jour de l'année, paru aux éditions Artege. Certainement une très bonne manière pour que les chrétiens se connaissent entre eux en lisant les uns les textes qu'ont écrits les autres et les traditions communes aussi parfois parce que ça remonte loin dans le temps. Et évidemment dans l'espoir que ça permettra de à l'Église de retrouver l'unité perdue. Peut-être pour terminer, je voulais inviter tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, catholiques ou orthodoxes, de commencer tous par un texte différent, je dirais, venant d'une tradition différente, pour voir que il y a beaucoup de choses communes quand même dans des traditions qui ont été séparées par l'histoire. C'était donc la troisième et dernière émission cette année consacrée à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc Martin de la Rancière, trésor spirituel des chrétiens d'Orient et d'Occident, pour prier chaque jour de l'année aux éditions Artege. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Julien Dumenc. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.